Pauline Armange, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir, alors bon, certes à distance, mais à la librairie Mola, pour votre nouveau roman qui s'appelle « De l'autre côté de la mer », publié chez J.C. Lattès à Paris, l'édition à Paris 2025, un copieux roman de 340 pages. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, j'en doute, mais je vous présente quand même. Vous avez déjà écrit de nombreux ouvrages avec cette caractéristique que vous allez aussi bien vers l'essai que, comme très connu cet essai, « Moi, les hommes, je les déteste », qui est traduit en 20 langues, mais aussi vers des fictions comme « Aux endroits brisés », publié chez Fayard en 2021, ou déjà chez votre éditeur J.C. Lattès, « Le renard » en 2023. D'où ma première question par rapport à voilà, de l'autre côté de la mer, roman, entre les deux formes, essai et roman, fiction peut-être, votre cœur toujours balance un peu. Et est-ce que à ce moment-là, vous aviez envie de cette fiction?
Ce que j'ai toujours voulu faire, c'était de la fiction, en fait. C'était vraiment mon premier amour, c'est raconter des histoires qui me sont jamais arrivées à moi. Et donc c'est toujours un petit peu inconfortable que on pense que c'est pour moi qu'on pense que je me mets à la fiction alors que j'ai toujours fait ça et que c'est presque une erreur que j'ai écrit un essai avant et qu'après j'ai écrit un autre essai sur l'avortement. Je pense que maintenant je suis capable de faire les deux dans le sens où j'ai toujours envie de raconter des histoires qui d'inventer des histoires, et en même temps, je sais très bien que l'essai, ça permet de raconter d'autres choses et de toucher d'autres personnes aussi. Mais fondamentalement, mon rêve, c'est de raconter plus d'histoires.
Ce qui, alors, je ne suis pas là pour donner mon avis, mais ce qui est quand même une grande réussite dans ce livre-là, où bon, on voit bien, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autofiction. Là, c'est roman et c'est assumé dès le début. Alors, un des enjeux, c'est que je ne raconte pas tout le livre pour donner envie aux gens de le lire, mais pas divulgâcher, comme on dit au canadien. Et tout de même, bon, bah, il faut camper les personnages. Ce roman, il s'ouvre sur la mort du père de Nine, une jeune femme, qui est donc, voilà, on la découvre dans ce processus de deuil très récent, et elle, notamment dans une scène où elle doit vider la maison, et où évidemment elle va être confrontée, alors évidemment, en tout cas c'est un peu l'arc narratif du livre, elle va être confrontée à un certain nombre de secrets de famille. Il faut rappeler que cette jeune femme, Nine, elle a été abandonnée par sa mère, quand elle avait 4 ans, et au moment où elle vide cette maison, alors ça m'a rappelé le livre, très beau livre d'une psychanalyste qui s'appelle Lydia Flemm, « Comment j'ai vidé la maison de mes parents », et comment chaque objet dans ces moments de deuil est essentiel, et elle retrouve des lettres. Ce qui constitue en fait un double choc, la mort récente de son père qui l'a élevée, et la redécouverte de cette mère qu'elle n'a jamais connue. Elle dit d'ailleurs, « Nine, je ne sais plus d'où je viens ». De ce fait-là, est-ce que le cœur du roman, c'est cette quête des origines?
Je pense que la quête du roman, c'est effectivement, oui, de plus que ses origines, mais en fait de comprendre ce qui est arrivé à sa mère, parce que dans l'histoire aussi, Nina, elle attend un enfant avec sa femme, et donc le catalyste qui est que son père meurt, et donc où elle est privée de son seul parent, et la découverte de ces lettres qu'elle n'avait jamais vues lui fait penser que il lui manque quelque chose pour tout simplement continuer sa vie, avec cet événement qui est la naissance d'un enfant bientôt qui arrive et qui vient vraiment bouleverser ce qu'elle pensait être acquis et serein. Pour elle, que sa mère n'ait pas été là pendant toutes ces années, c'était pas important, c'était pas grave, ça lui a pas tant manqué que ça, se pense-t-elle en tant qu'adulte maintenant. Et en fait, si son père n'est plus là, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui reste? Et qui est-elle, dans le sens où ça vient rebattre toutes les cartes, en fait. Elle pensait que sa mère était partie, bon ben tant pis. Elle se rend compte qu'en fait, finalement, elle avait quand même essayé de communiquer avec elle et que ça lui avait été volé par son père qui lui a jamais dit. Et donc, en fait, c'est un cas classique de secret de famille à enquêter, mais qui arrive à un point crucial dans sa vie qui lui demande de se poser la question Comment, qu'est-ce que c'est quoi cette famille dont je suis issue? C'est quoi cette histoire et qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce que je peux en tirer pour la suite avec ma propre famille que je suis en train de construire?
Alors, dans la manière dont c'est mis en musique et mis en chapitre, on a un changement de narrateur, enfin de subjectivité, avec d'abord, bon, évidemment, Nin, et puis, sans transition, c'est assez bien fait, on a la voix de Fiona, qui est sa mère, et puis, un peu moins souvent, mais la voix de sa femme, Pia, et à chaque fois, on adopte ces subjectivités-là, ce qui fait que, alors, il y a souvent il y a now pour le maintenant, et le maintenant, c'est Nin, et puis then, le passé, celui de Fiona, dont on devine pas tout de suite, mais que c'est peut-être des lettres, d'autres lettres que les cartes postales qu'elle retrouve dans la maison de son père, d'autres lettres qu'elle lui a écrites et qui lui permettent de reconstituer cette vie de femme. Et j'en viens à ça, Fiona, on reconstitue aussi les logiques de cet abandon. Et là, il y a une ambiguïté parce qu'on a aussi le récit de la rencontre avec son père, Daniel, etc. Mais on a le récit, certes, d'une mère qui ne cadre pas. Mais comme cet abandon, il intervient assez tôt, je voulais vous demander si, d'une certaine manière, on n'a pas, dans l'abandon par Fiona de sa fille, qui est très jeune, une sorte d'envie de raconter le postpartum, un mot qui n'est pas dit, mais qui transparaît dans les émotions que vous prêtez à Fiona dans l'arrivée de sa fille.
Oui, c'est très juste. On m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps que je n'avais pas jamais utilisé ce mot-là, ni postpartum, ni dépression postpartum dans le livre. Et je pense que pour moi, c'est clairement une histoire de dépression postpartum qui ne dit pas son nom parce que pour plein de raisons narratives et aussi, ça se passe dans les années 90, le moment où Fiona a son enfant. On sait tout de suite dans la narration que c'était pas tout à fait prévu, ce qui pose plein de questions par rapport à comment on se construit en tant que femme qui a, j'ai envie de dire, de l'ambition tout simplement, en tout cas qui a des rêves, et le fait que ce soit jamais un mot qui est posé, c'est aussi parce que je pense que si, tant qu'on n'a pas le mot, c'est difficile de gérer la réalité de ce qu'il recouvre, en fait. Elle va très, très mal, c'est très compliqué pour elle. Il y a des hauts, il y a des bas. À un moment donné, elle pense que ça va mieux. Et puis, en fait, et à la fin, c'est la seule manière de gérer ce bouleversement énorme qui est l'arrivée d'un enfant alors que ce n'était pas exactement ce qu'elle avait prévu. Pour elle, en tout cas, c'est de partir. Et je pense que moi, ce que j'avais envie d'explorer dans cette histoire-là, c'est parmi toutes les réponses possibles à avoir un enfant quand c'est pas prévu, c'est quoi la plus extrême pour moi? Et je pense que c'est partir. Et en quoi c'est si grave? Parce que c'est quelque chose qui est très rarement envisagé. Du point de vue de la personne qui décide de partir, surtout. De la mère, de la personne, mais voilà, de la mère, de la femme qui décide de partir. En quoi ça peut être un geste de survie, et en même temps, ça reste un geste égoïste. Et est-ce que des fois, l'égoïsme, c'est pas la survie? Et c'est aussi... Je pense que c'est ma tentative d'apporter une espèce de nuance entre avoir des enfants et être 100%, pas 100%, mais voilà, être majoritairement épanouie par la maternité et le regret. Dire totalement si c'était à refaire, je le referais pas. Je pense que c'est aussi ça qui m'intéresse dans la fiction, c'est d'aller explorer les entre-deux, les choses. Qui sont un peu plus complexes que l'acceptation totale ou le rejet total.
Oui, et ça, de ce point de vue-là, c'est vrai que dans la construction du personnage et dans le propos, c'est-à-dire en dehors de la subjectivité des différents personnages, ça n'engage que moi, mais il y a un très bel équilibre qui est fait entre la subjectivité de Fiona, qui n'est jamais une excuse de son acte d'abandon, mais qui est une plongée immersive et compréhensive dans les motivations qu'on poussait à cet acte-là. Et cet équilibre-là, il est très tenu. Alors, ça m'amène effectivement à un des cœurs de, c'est pas le seul, mais un des cœurs du roman, qui est une question peut-être plus politique, dans le sens où, effectivement, comme vous venez de le dire, c'est un sujet limite assez peu évoqué. C'est très récent hein, qu'on ait donné la parole à des femmes qui regrettaient d'avoir eu des enfants. Et dans la description que vous faites de Fiona, c'est une sorte d'antidote extrêmement fort. J'allais dire un coup de canif au contrat, mais c'est un coup de hache dans le contrat de l'image ultra dominante actuellement de la mère parfaite, de l'instinct maternel, de l'amour naturel qu'on porte à ses enfants. Et du coup, ma question, c'était de dire, voilà, au-delà de l'objectif poétique du livre, est-ce qu'il y avait un objectif, alors politique, pas au sens direct du terme, mais d'essayer de comprendre cette émancipation possible des femmes qui, alors là, on arrive au personnage de la mère de Fiona, c'est page 257, mais qui dit qu'il n'avait jamais pu rêver de faire autre chose que de prendre soin des autres. Et quand Fiona, d'ailleurs, retourne chez ses parents, elle voit sa mère totalement aliénée, qui a jamais eu de vie à elle, qui ne s'assoit jamais avant 20 heures. Alors, est-ce qu'il y avait cet objectif-là de donner, d'une certaine manière, un violent coup de pied dans cette figure des mères parfaites censées assurer pitance et soins care à tout le monde? C'était un peu ça aussi?
Oui, c'est même peut-être un peu plus loin encore que ça, parce qu'il y a la figure de la mère de Fiona qui est dans le soin total. Et puis ensuite, il y a celle de Fiona où, en sous-texte, elle est quand même d'une époque où on a dit aux femmes qu'elles pouvaient tout avoir. Elles pouvaient avoir les enfants, avoir la famille, avoir une carrière, de l'ambition, etc. Et en fait, même encore aujourd'hui, donc 30 ans plus tard que l'histoire de Fiona, c'est quand même toujours extrêmement difficile pour les femmes d'avoir tout et d'être épanouies là-dedans. Ça demande tellement de travail que je pense que sa rupture, pour moi, c'était un aveu de... Pas un aveu, un constat de... En fait, ça reste toujours extrêmement compliqué de concilier tous les rôles qui incombent aux femmes quand elles font des choix. En fait, autant pour plein d'hommes, c'est assez facile d'avoir des enfants, de continuer une carrière, parce que en fait, la charge qui leur incombe est beaucoup moins intense. On leur demande, la société leur demande beaucoup moins de choses. Et ça pose des problèmes qui sont un peu abordés dans le livre, où Daniel, le père de Nine, pendant les premières années, quand Fiona est encore là, il travaille beaucoup parce qu'il faut il faut mettre le pain sur la table pour sa famille, et donc ça déséquilibre complètement leur relation. Leur rapport aussi à la création, à la créativité, etc. Et ensuite, quand Fiona part, il est obligé de remplir le vide qu'elle a créé, donc de s'occuper plus de sa fille qu'il l'aurait peut-être jamais fait si elle était jamais partie. Et je me dis que autant c'est vrai qu'on parle beaucoup plus qu'avant. Du rôle social de la maternité. Je fais toujours la différence entre à quel point c'est différent d'être parent au global, donc d'avoir un rapport de parentalité à son enfant, et d'être une mère aux yeux de la société, avec tout ce que ça incombe de devoir se sacrifier, le faire avec le sourire, être tout le temps dans le don de soi jusqu'à ne plus savoir qui on est. Et le problème crucial de Fiona, c'est qu'elle n'a jamais réussi à oublier qui elle était, au fond, et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de chercher à se retrouver. En fait, peut-être qu'elle n'a aussi jamais su qui elle était, et que la maternité, c'est pas non plus, ça n'a pas été la réponse que c'est pour d'autres personnes, ou j'ai envie de dire, qui satisfait d'autres femmes, et pas elle, en fait.
Oui, ça, on le voit très bien. C'est-à-dire on l'a pas dit, mais le Fiona est relativement jeune quand elle a sa fille, Nin. Et effectivement, on sent bien qu'il y avait, elle veut embrasser une carrière d'artiste artisane dans la céramique, etc. Elle a un talent pour ça. Elle a déjà mis beaucoup d'énergie à quitter le trou d'Écosse, le petit village dans lequel elle vivait. Et c'est vrai que l'arrivée de l'enfant, tout assumé par elle, la morcelle, quoi. Enfin, elle est complètement perdue. Et ça c'est très bien décrit. Alors, il y a un moment assez intéressant et qui permet aussi de voir que votre propos, il dépasse d'ailleurs assez, il est à plusieurs échelles et donc il est aussi un propos pour tous et pour toutes. Hein. C'est à travers notamment le personnage de Pia, la femme de Nin, qui est enceinte et qui va être aussi, elle, d'une certaine manière, alors on ne le perçoit pas au début dans la lecture, mais percutée par ce double événement, la mort du père. Et la redécouverte, enfin la manifestation matérielle de la mère qui était partie. Et il y a une scène assez intéressante parce que Pia est plutôt un personnage construit dans la douceur, dans l'acceptation, dans l'accompagnement de sa femme qui vit quand même une séquence pas facile. Et puis à un moment donné, d'un coup d'un seul, elle s'énerve, elle est en colère. Les deux femmes sont parties pour retrouver en fait la mère de Nin. Et elle s'énerve et il y a une sorte de transfert, une translation très intéressante où en fait, comme si l'angoisse de l'abandon potentiel qui avait tenaillé un peu Nin, qui s'interrogeait sur une sorte de transmission intergénérationnelle de la faute, elle est hantée par cette possibilité de la reproduction de ce qu'a fait sa mère. Va-t-elle elle aussi, un peu comme par réflexe conditionné, abandonner son enfant? Et c'est Pia qui, tout d'un coup, se rebelle et dit, mais je cite, hein, « Je suis peut-être celle qui s'en va. » Et ce qui m'intéressait dans cette diffraction-là, dans la répartition de cette angoisse-là, entre Nin, Pia, ce qu'a fait Fiona, c'est finalement, pour le coup, quel que soit, comme vous dites, en dehors du rôle de la mère, de la parentalité, une sorte d'angoisse parentale de la fuite toujours possible. Est-ce que vous avez voulu décrire ça?
Je pense que une des grandes questions autour de la maternité en ce moment, c'est pour les femmes, pour les mères, de pouvoir échapper de temps en temps à la responsabilité écrasante d'être parent. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour les hommes de se décharger de ça, que ce soit 2 heures par jour ou plus longtemps. Des histoires d'hommes qui partent faire le tour du monde alors que leur femme a un enfant de 2 mois, il y en a. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de le faire en tant que mère. Et je pense que l'angoisse de Pia, qui porte l'enfant, donc qui commence déjà à sentir à quel point ça va changer sa vie dans son corps, c'est un truc qu'elle a voulu tester, voir ce que ça fait d'être enceinte, ce que ça va faire, d'accoucher. En fait, elle développe sa propre angoisse finalement, qui se réveille en miroir de celle de Nin. Celle de Nin, elle est transmise par ce qu'a fait sa mère, mais en fait, celle de Pia, elle est viscérale. C'est vraiment des fois j'ai plus envie d'être enceinte, alors que j'ai eu très envie de cet enfant, j'ai très envie de vivre cette vie. Et en fait, déjà maintenant, alors qu'il me reste encore 3-4 mois, j'ai déjà envie de laisser mon ventre à côté et puis d'aller vivre ma vie et puis de revenir plus tard. Et je pense que, pour moi, pour l'avoir vécu aussi, c'est une ambiguïté qui est très compliquée à accepter parce que c'est tellement acquis qu'être une mère, c'est total et que c'est pour toujours et que c'est 24 heures sur 24 que juste s'autoriser à dire « des fois, j'ai plus envie d'être là », c'est comme si c'était une faute morale énorme, alors que dans un monde idéal, dire voilà, vraiment, si je pouvais, je ferais autre chose. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus jamais le faire, mais là, tout de suite, maintenant, j'ai besoin d'autre chose. Pour moi, c'est un rapport qui est plutôt sain aussi avec la parentalité. Et j'avais besoin que ce soit Pia qui le dise, parce que pour casser justement cette idée de transmission, de malédiction, de génétique, de la mère affreuse qui se reproduit de génération en génération. C'est beaucoup des histoires qui reviennent souvent quand même d'avoir ce sentiment d'être maudit par ce qu'ont fait nos parents avant, alors que pour moi, cette peur de l'abandon, cette peur de partir, c'est comme une phobie d'impulsion. Et je pense que ça touche n'importe qui, même une personne comme Pia qui a eu une famille très aimante et qui n'a aucun problème théorique avec l'idée de famille, quoi. Voilà.
Ça, c'est sûr que on laissera les gens qui n'ont pas encore d'enfants ou qui en veulent peut-être pas, mais les phobies d'impulsion, c'est effectivement un truc assez intéressant. Ils peuvent se renseigner. Alors, dans le livre. Voilà, là, on a évoqué tout un ensemble d'émotions quand même difficiles, qu'elles soient de l'ordre du deuil, de la transmission parentale, etc. Mais c'est vrai qu'il faut le dire aussi, le livre, c'est aussi la description, peut-être même encore plus longue, de très belles histoires d'amour. Celle entre Daniel et Fiona, donc dans ce passé du Den, de l'avant, celle de la rencontre aussi entre Pia et Nin. Et là, ça m'a beaucoup... Une belle histoire d'amitié aussi entre Nin et son meilleur ami, Sean, Sin, qui est un personnage très, très sympathique. Mais dans ces histoires d'amour, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on le sait aujourd'hui, on le sait notamment, je fais une petite digression, mais on le sait notamment dans la question actuelle de la production artistique, quelle qu'elle soit, en musique, en art, qu'il y a un certain... La domination patriarcale, là aussi, a fait des dégâts, et que dans la création, on peut avoir des paradigmes, des exemples très toxiques de la création qui doit se faire dans la souffrance, le génie maudit qui finit par s'autodétruire, etc. Des modèles qui sont très, très forts en Occident. Je viens à mon propos, y compris dans les histoires d'amour. Et pour avoir beaucoup trop lu de littérature du 19e et du 20e, les histoires d'amour, je ne vais pas chanter, mais finissent toujours un peu mal. Et on a vraiment, dès les scènes que vous écrivez, vous, dès les scènes de rencontre, dès les scènes de premier baiser et de ce que vous décrivez des deux couples dont vous parlez, d'habitude dans la littérature, s'infiltre là-dedans le regard des hommes. Et quand ce n'est pas un homme qui écrit, la tentation, dès le départ, de relations fondées sur la domination et relativement toxiques. Alors moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est dit, vous l'écrivez, vous voulez des rencontres, c'est Fiona qui le dit, qui veut des rencontres qui ne soient pas des perditions, vous le faites très bien. C'est-à-dire qu'on voit des histoires d'amour très saines, bien avant l'abandon, et qui encore une fois est peut-être même pas une question liée au couple, hein. C'est vraiment Fiona face à elle-même. Et donc voilà, pareil, ma question c'était de dire, est-ce que d'une certaine manière il y avait cette envie, ou ça vous vient naturellement d'ailleurs, hein, vous avez peut-être ce talent d'écrire l'amour d'une autre manière, c'est-à-dire dessaisie de ces projections toxiques, de la manière dont on dépeint les femmes amoureuses, les hommes amoureux, est-ce que vous aviez cette envie-là aussi
Oui, particulièrement dans cette histoire-là où pour moi le propos c'est pas l'amour qui pose problème. J'avais vraiment besoin que la relation entre Nin et Pia soit pas du tout un sujet de conflit parce que ça n'aurait pas eu de sens par rapport à ce que je voulais raconter, mais aussi parce que je suis assez fatiguée des histoires d'amour entre femmes qui finissent super mal, qui sont sujets à drame, plus qu'à célébrer la beauté de juste l'amour. Plutôt une grande fan d'amour, ici. Et par rapport à Fiona et Daniel, même si ils se séparent, même si c'est très douloureux, c'était important pour moi qu'il y ait une histoire où une femme peut être exactement qui elle est. Fiona, elle a beaucoup d'ambition, elle a effectivement beaucoup travaillé pour quitter la promesse d'une vie très très étriquée dans le nord rural de l'Écosse pour devenir artiste. Et elle rencontre un homme qui va jamais, malgré la pression sociale, ne va jamais essayer de l'amoindrir. Ce qui va l'amoindrir, c'est la maternité. Et d'une certaine manière, Daniel est un peu responsable de ça aussi, puisqu'il va, lui, s'empresser de correspondre au rôle genré du père qui s'implique, notamment en travaillant beaucoup. et qui va du coup se déconnecter totalement de sa partenaire de vie. Elle ne s'est pas non plus aidée en étant quelqu'un qui a un peu du mal à parler. Mais pour moi, le fait aussi qu'il est pendant leurs premières années de relation était un soutien assez infaillible, bien que discret, dans ses ambitions à elle en tant qu'étudiante, puis artiste au début. Ça va aussi participer au sentiment de trahison qu'elle a du mal à conscientiser quand elle se rend compte que face à son enfant, elle est toute seule et qu'elle est beaucoup moins comprise qu'elle avait l'habitude, presque le privilège de l'être avant. Et que la grande solitude qu'elle va ressentir, c'est aussi d'avoir perdu. Elle a toujours un partenaire de vie, elle a toujours un homme dans sa vie, mais elle a perdu... un soutien, en fait. Et ça, c'est plus... ça sort un petit peu de l'idéal romantique. C'est plus... qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un avec qui on partage sa vie et avec qui on construit des choses. Mais moi, je suis pas très intéressée dans mon travail à moi d'écrire des drames amoureux, parce qu'on en a énormément. Et que... Moi, je trouve que ça y est, on est dans une période où on peut se permettre de dire que l'amour, ça peut être tranquille, sans drame, sans quelque chose d'assez routinier pour devenir solide et puis pour permettre de construire d'autres choses. Là où ça a été très compliqué pour Fiona et Daniel, et ben en fait c'est ce que Nine et Pia arrivent à faire elles. En étant dans une relation où leur amour, qui est très fort, leur permet d'être la base solide de tout ce qu'elles ont envie de faire par la suite, ensemble et aussi chacune de leur côté en tant que personne individuelle.
Et je repense à une scène au moment où Daniel il fait de la guitare, il est dans un groupe de rock local en Bretagne, hein, donc le succès assuré. Et quand il se rencontre avec Fiona... Et c'est vrai que de la même manière que vous dynamitez un peu, enfin que vous posez des questions sur voilà la mère parfaite, il y a des très bonnes pages, 2-3 pages hein, sur le dynamitage du couple parfait ou les copains du groupe de rock et où en fait vous décrivez toutes les copines qui gravitent autour de ce groupe qui, comme vous le dites, j'aime bien ce mot, vont directement s'amoindrir. Il y a une page très très belle où vous dites à mesure que un des membres du groupe de rock de Daniel grossit, sa compagne rapetisse, il se nourrit d'elle, mais c'est pas tellement lui, c'est la manière dont les relations doivent être avec cette soumission. Et comme Fiona, dans ses allers-retours temporels, elle, dans le passé, refuse ça, et que Daniel refuse aussi, d'ailleurs, il s'occupe d'elle, il y a des pages très amusantes sur le rôle social de la femme dans le couple, on voit que lui, on lui pardonne pas d'être tout simplement attentionné envers sa compagne, et elle, on ne voit pas qu'elle est attentionnée, ces pages sont très intéressantes. Alors, ça amène d'ailleurs, j'ai bien aimé ça aussi, mais je suis pas à l'aise avec ma question parce que je pense qu'elle est, c'est une erreur de jugement. Tous vos personnages, j'allais dire, surtout peut-être Pia et Sean, débordent d'émotions positives, etc. Mais c'est vrai que quand on pense à Nine et Fiona, particulièrement, mais Daniel aussi, j'ai trouvé ça intéressant de votre traitement des émotions où en fait. Je ne vais pas faire de généralité, mais à l'heure d'aujourd'hui, où effectivement, on est plutôt dans une question... On est dans une société d'abondance, y compris dans le roman, y compris dans les émotions. C'est tous les trois, le père, la mère et Nine, sont un peu dans la retenue, sont un peu dans l'impossibilité de la plénitude des émotions, alors que ce soit la timidité pour le père, qui en fait n'arrivera jamais à pleinement dire son amour à sa fille, sans même parler du fait qu'il lui a caché les lettres, etc. Enfin, qu'il est, c'est pas fondamentalement, c'est pas quelqu'un qui a un rôle ni de héros ni de sauveur. Chez Fiona, ce bouillonnement permanent, et aussi dans son couple, elle le dit, elle est incapable d'aimer Daniel comme lui l'aime. Et puis chez Nine, qui est aussi la personne qu'on suit dans cette quête-là, beaucoup de colère à l'âge d'enfant et d'adolescente, mais aussi adulte et voilà, je me demandais si c'était une volonté de votre part de croquer des personnages qui soient pas non plus complètement aimables, parce que trop dans l'émotion positive, dans quelque chose de easy listening, de facile à consommer. Est-ce qu'il y avait cette volonté de leur donner une part sombre assez affirmée?
Je me dis que je pars d'un secret de famille, et en fait, s'il y a un secret, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Donc à partir de ce moment-là, il faut des personnages qui ont du mal à dire les choses. Le plus important, c'est de trouver les bonnes raisons. Pourquoi ils n'arrivent pas à dire les choses? Fiona, c'est parce qu'elle n'a pas du tout été élevée comme ça. Elle a vraiment une éducation, j'ai envie de dire, à l'ancienne, en fait, où on vit au jour le jour, au quotidien, un quotidien assez rude, avec très peu de place pour la fantaisie et pour la profondeur, d'une certaine manière. Daniel, lui, il vient aussi de cette génération un peu empêchée, et puis c'est pas facile de parler avec quelqu'un qui parle pas. Donc ça finit par le définir, puisqu'ensuite sa femme, sa partenaire de vie part sans rien dire, et donc du coup c'est la solitude des hommes modernes, avec qui il a pu parler de ce traumatisme d'avoir été lui aussi abandonné par la femme qu'il aime. Peut-être probablement personne, puisque en général les hommes ne parlent pas en général. Comment on éduque un enfant à dire des choses alors que soi-même on ne sait pas parler? Ça fait une famille de gens qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions, donc ils les ressentent de manière trop silencieuse, ou alors au contraire plus explosive. Et les personnages de Pia et de Sean sont là pour leur tirer les vers du nez, pour faire avancer l'intrigue aussi. Je pense que comme c'est pas un roman d'aventure et qu'il n'y a pas de héros, il faut que les conflits arrivent autrement. J'essaye, je me pose souvent la question, comment on fait pour raconter des histoires sans conflit, un peu comme Ursula Le Guin le dit, sans la fiction panier. Qu'est-ce qu'on raconte quand il n'y a pas une épée et une guerre à gagner? En fait, au final, tant qu'il y aura des difficultés à communiquer, je ne pense pas qu'on arrive un jour à un monde où ce sera facile de tout se dire, il y aura des drames à démêler, et donc il y aura des gens qui auront du mal à parler, d'autres qui auront pour rôle de faire venir cette parole-là. Et ensuite, il faudra gérer les conséquences. Et donc, je pense que c'est un roman d'apprentissage, c'est d'apprendre à aller chercher les réponses, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait des réponses.
Ceci dit, il faut rassurer les spectateurs et spectatrices, il y a un plot twist absolument incroyable. Je me suis fait avoir comme il faut. Je suis même revenu lire en arrière pour voir si j'avais pas loupé un truc. Mais c'est intéressant ce côté comment construire. Dans les romans d'apprentissage, il y a toujours la situation initiale, les péripéties, la situation finale. Et c'est aussi vrai de votre travail. Alors, ça m'amène à une question un peu de côté, mais moins sur le fond. Et encore une fois aussi, pour ne pas tout dire, pour qui encore l'envie de découvrir tout ça, mais j'ai été très frappé par la forme, par l'écriture. Alors, sans du tout critiquer les productions contemporaines dans leur ensemble, mais on sent qu'aujourd'hui, dans tout un ensemble de livres, d'autofiction, il y a une volonté, pour passer sous les fourches codines de l'envie d'avoir un style, d'utiliser souvent des formules extrêmement poulées, un champ lexical ou un vocabulaire inadapté, et qui donne, alors bon, on peut aimer ou ne pas aimer, c'est des questions de goût, mais qui donne, c'est bête ce que je veux dire, mais une version de la langue française qui souvent tombe à plat, trop empruntée, on pourrait dire, et inversement, des formes extrêmement directes, parfois pas très intéressantes. Et j'ai été très frappé, alors j'ai un peu de mal à l'exprimer, mais on sent dans votre écriture un amour de la langue et du français bien écrit, où en fait on va trouver bon, une langue extrêmement accessible, mais de temps en temps, ça m'a amusé, des, alors soit des expressions, j'ai noté avait fondu comme la petite vérole sur le, black, le bas clergé. Bon, ça c'est vraiment un truc, il y a des gens qui connaissent cette expression, mais c'est assez rare. Mais au-delà des expressions, des formes grammaticales, des mots, alors c'est pas à toutes les pages, mais toutes les 3-4 pages, c'est... Voilà, extrêmement rigoureuse avec la manière d'employer la bonne forme de telle expression française qui d'habitude est complètement tordue, etc. Et donc j'ai beaucoup apprécié ça, cette rigueur, et en même temps voilà qui la forme est extrêmement accessible. Donc voilà, c'était une question bête, c'est est-ce que voilà c'est un amour du français, c'est votre envie de créer cette langue accessible, mais en même temps tout à fait ciselée. Comment vous pensez ce rapport à la langue, aux mots? Petite question.
je suis évidemment très pensive de dire ça, mais une très grande lectrice, mais tout autant de formes très populaires. Comme la romance, que de livres plus exigeants, plus classiques. Et je pense que ça me donne envie d'écrire des histoires compréhensibles et poétiques. Et c'est un peu le travail d'équilibriste, c'est que parfois, l'envie de faire une belle phrase ou un beau paragraphe va prendre totalement le dessus sur... l'intention narrative de ce passage-là, est-ce qu'il est vraiment nécessaire ou est-ce que j'ai juste envie de me la péter parce que je sais utiliser telle ou telle figure de style et...
De vous targuer.
et c'est toujours un peu compliqué pour moi les questions sur le style, etc., parce que j'ai l'impression que je peux évaluer entre guillemets le progrès que je fais aussi moi dans mon travail en tant que personne dont c'est le métier d'écrire des choses bien a posteriori quand je relis mon premier roman, me dit j'écris plus du tout comme ça, mais pour autant il y a toujours cette tension entre évidemment que j'ai envie de faire de belles phrases parce que j'en ai lu vraiment beaucoup et que ça m'a beaucoup formée en tant que personne, tout simplement. J'ai un peu ce défaut aussi de toujours créer des personnages qui font très attention à leurs mots, parce que ça justifie aussi pour moi d'utiliser des mots plus précis que ce que je peux faire à l'oral ou ce qu'on fait en général. Et en même temps, faut jamais que ce soit au détriment d'une intrigue qui est assez claire et qui n'a pas besoin d'être de trop de fioritures pour rester ce que c'est. Et donc, je suis assez... Une fois que j'ai fini mon premier jet, il y a beaucoup de travail avec mes éditrices qui consiste à essayer de définir est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire cette tirade un peu lyrique ou est-ce que tout seul, sans tout le contexte du livre, ça peut être très joli, mais en même temps, ça dénote trop par rapport au reste du livre. Est-ce qu'on peut raccourcir, changer certains aspects pour que ce soit moins moi qui me fait plaisir et plus moi qui fais attention à habiller correctement mon histoire, je pense. Ça me demande pas mal d'humilité en fait, de d'accepter que parfois cette figure de style est vraiment très maligne, mais elle dessert un petit peu le livre quoi. Donc c'est un jeu un peu d'équilibriste.
Alors je rassure, j'ai dû aller vers le dictionnaire une seule fois. J'avais oublié ce qu'était un zeugma. Et voilà, c'est tout. Alors, dernière question. Mais encore une fois, voilà, je ne veux pas du tout... l'intrigue, elle est très tenue. Vraiment, c'est voilà, 340 pages où on... y a aucun moment où on est lâché de cette histoire-là. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas non plus aller vers les éléments de la fin, etc., pour garder le plaisir de lecture. Mais il y a quand même une dernière question sur le fond, c'est ce côté, la place du lien intergénérationnel, alors, notamment entre femmes, parce que les personnages masculins, Daniel et Sean, sont... On ne sait pas nécessairement d'où ils viennent. Enfin, on connaît un peu les parents de Sean, mais ce n'est pas le sujet. Et on a plutôt des liens intergénérationnels de femmes. La mère de Fiona, Fiona, sa fille, etc. Et ça ouvre quand même une porte sur une forme de sororité, sur une forme de rédemption envers tout ça. Donc, est-ce que c'est... La sororité, on en parle beaucoup. Une sororité parfois dans l'actualité, hein, des liens entre femmes du même âge, etc. Mais là, il y a ce lien-là. Est-ce que c'était important pour vous, au-delà de la transmission, voilà, il y a un peu le canal de la transmission de l'abandon et de la honte et des émotions négatives de Fiona, mais il y a aussi un canal un peu plus imperceptible de femmes qui se parlent et qui peut-être se lèguent une envie d'émancipation les unes aux autres.
Clairement, les relations les plus importantes dans ce livre, c'est les liens entre les femmes. Il y a Fiona qui a une amie qui est déterminante pour elle dans sa trajectoire. Elle va ensuite rencontrer d'autres femmes qui vont lui apporter d'autres réponses, d'autres horizons aussi. Globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires de femmes. Et c'est aussi tout ce que ça peut je pense que je suis très très intéressée par la question de d'être une femme dans un monde qui reste encore hostile. Qu'est-ce que ça veut dire de créer des liens avec des hommes, même bienveillants, même bien intentionnés, et qu'est-ce qu'on gagne à créer des liens avec des femmes, même quand c'est pas facile de vivre ensemble, même quand on n'arrive pas à se dire certaines choses. Et qu'est-ce que les femmes, quand elles sont en lien, apportent au reste du monde aussi. Et donc, plus qu'une question de sororité, qui maintenant est peut-être tellement galvaudée que ça en perd de son sens. Pour moi, c'est aussi une question de qu'est-ce qui existe quand on laisse la place à ces liens de se former sans l'attente des hommes, sans les regards des hommes, sans c'est pas une utopie, c'est pas cuicui les petits oiseaux, les femmes sont amies, alors du coup le monde va bien, mais ça crée des choses qui sont intéressantes et auxquelles on n'a pas tant l'occasion que ça de réfléchir puisque c'est pas des histoires qui sont fondamentalement qui sont valorisées. Et donc moi, ça m'intéresse d'aller chercher là les nouveaux points de tension et aussi les nouvelles découvertes que ça peut générer.
Et d'ailleurs, un des échappatoires, c'est assez amusant parce qu'on le sent pas venir chez Fiona, parce que bon, elle a collectionné un certain nombre d'hommes de manière très sympathique. Elle a rencontré Daniel, mais on voit que dans la fin de la trajectoire, son émancipation passe aussi, c'est dit, par un monde sans hommes. Et c'est intéressant, ça pose les questions politiques que vous soulevez ici. Pauline Armand, je merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, donc ce roman de la rentrée littéraire, De l'autre côté de la mer, 340 pages, voilà, avec tout ce propos politique, littéraire, romanesque, et dans une forme extrêmement cohérente. Donc voilà, je recommande aux spectateurs et aux spectatrices, et je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.